Les voies de service, mercredi 19 décembre 2018. Bonjour et bienvenue aux voies de service. C'est Isabelle Falardeau au micro, en compagnie cette semaine de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et de Daniel Lachance.
Bonjour Isabelle, bonjour, bonjour Serge, bonjour Jean-Sébastien.
Pour cette dernière.
Oui. Mais
on va parler beaucoup de chansons de Noël. Quelle surprise! Je pense que je vais être la seule à être hors sujet et à ne pas parler du tout de Noël. Mais de votre côté, Daniel, en première partie, de quoi vous allez nous parler? Ben, j'ai plus vendu le punch.
Ouais. Ben, là, je vais être obligé de vendre le punch parce que c'est assez difficile de faire une surprise avec ça. On entend beaucoup parler de chansons de Noël, puis on entend beaucoup parler de personnes.
Entre autres, on en entend parler ici à l'émission.
Ouais, puis on entend du monde qui sont tannés d'entendre des chansons de Noël, puis tout ça. Mais là, j'ai trouvé un article qui pour titre « Pour ne pas en finir avec les chansons de Noël ». Fait que je me suis dit, ah, ça vaut peut-être la peine d'aller voir cet aspect-là de la chose.
D'accord.
Je vais en parler dans les deux parties.
Excellent. Et de votre côté, Serge?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un chant de Noël. Si nous n'avions pas ce chant de Noël-là, ce ne serait pas Noël pour ben du monde, mais je ne l'identifie pas.
Mais j'ai une petite idée, mais on va voir. Merci beaucoup.
Ouais, et moi, de Paul et Paul.
De mon côté, je vais vous révéler comment se dit « Là où la terre est rouge » en Inuktitut. Là où la terre est rouge, c'est le titre d'un article qui a été publié en deux parties sur le site du journal Métro par Maïté Labrec-Saganache. Et donc, je vais vous partager ça en première partie. Et je commence tout de suite avec cette terre rouge, là où la terre est rouge. Alors, c'est un article qui a été publié le 14 décembre, comme je le disais en deux parties, sur le site du journal Métro. J'ai attendu un certain temps avant d'écrire sur le pacte pour la transition. Alors, pacte pour la transition, pour ceux qui auraient été sur une autre planète là, depuis les dernières semaines, c'est un pacte, c'est un document en fait qui a été proposé par Dominique Champagne qui demande aux gens de s'engager à réduire leur consommation, avoir des comportements qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement. Mm-hmm. Globalement, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près ça.
Hey, en passant, j'ai juste un petit commentaire.
Oui,
il y a des choses des fois qui nous amènent à des contradictions.
Ouais.
Ça fait quand même quelques années, avant même le pacte, ma copine et moi, on utilise de moins en moins nos automobiles. Okay? Mm-hmm. On a chacun une auto, mais presque toujours dans la cour. On ne fait même pas 6000 km par année. Et on est obligé de faire réparer nos freins plus souvent à cause de ça, parce qu'ils roulent.
Ils s'usent plus rapidement quand ils travaillent.
On paye pour faire attention.
Alors, on vous remercie de vous sacrifier pour l'environnement, Daniel. Alors, donc j'ai attendu un certain temps avant d'écrire sur le pacte pour la transition, surtout parce que je crois qu'il est important de ne pas laisser mourir ce genre de mobilisation et de discussion après quelques jours. J'ai mes critiques à l'égard du pacte, bien sûr. Je ne pense pas que ça parle totalement aux gens dans les régions ou à ceux qui ne sont pas en mesure de remplir les engagements demandés dans le contrat. Par contre, je trouve que la démarche est quand même légitime et d'en rire à outrance, comme beaucoup l'ont fait, relève un peu de la mauvaise foi. J'ai mes critiques aussi parce que je veux que ce genre d'initiative ait de l'impact. Dans les communautés autochtones isolées du Nord, nous sommes spectateurs des changements climatiques et je pense que les signataires de ce contrat ont aussi la responsabilité de se renseigner sur ce que nous vivons. Je rappelle que Mme Labrec-Saganache est d'origine Crie, donc les Cris du Nord du Québec. Mm-hmm. Donc, c'est effectivement une région qui subit beaucoup, comme un peu partout dans le monde, là, mais des gros impacts dans le Nord des changements climatiques. Alors, l'an passé, j'ai rencontré Janice Gray, la vice-mairesse d'Opaluk. Alors, Opaluk, c'est... vous allez voir plus tard ce que ça veut dire, Opaluk. Je pense que vous allez avoir une petite idée. Alors qu'elle nous accueillait, mon père et moi, dans sa communauté d'environ 200 personnes. À 29 ans, Janice en est à son deuxième mandat à la mairie. Elle est aussi directrice générale de la coop locale. Opaluk est une communauté isolée de la région de la baie d'Ungava, au Nunavik. Tout le monde rit d'Opaluk, mais c'est un endroit magnifique et il y a plein de choses à faire l'année longue. Nous récoltons notre propre nourriture, baies, champignons, plantes, poissons, phoques, caribous. Il fait bon vivre ici, me dit-elle. Je la vois parfois sur Instagram aller ramasser des moules durant les marées basses. Vous comprendrez alors que la vie dans cette communauté est étroitement liée à la santé du territoire. Je veux être présente pour ma communauté, surtout à cause de l'industrie minière qui rôde aux alentours. Oceanic Iron Ore souhaite ouvrir une mine à seulement 10 km de la communauté et un port de l'autre côté de la baie où elle se trouve. Ça, on va y revenir plus tard. Madame Labrecque-Saganache va y revenir dans la deuxième partie de son article. Janice me dit que cet été, la toundra était si sèche qu'elle s'effritait sous ses pieds. Les rivières n'ont pas atteint le même niveau que d'habitude et les poissons ont eu du mal à retourner dans les lacs, ce qui va affecter la pêche hivernale. Elle est très ferme sur la question. Les changements climatiques tuent les Inuits. Plusieurs chasseurs tombent sous la glace alors que tout devrait être normalement assez gelé. Son ami a perdu la vie car un énorme iceberg s'est détaché d'un glacier. On fait le même genre d'observation sur mon territoire et chaque année, ça empire. Près de 90% du territoire de ma communauté a été coupé ou fragmenté, donc je me vois mal planter des arbres comme me le suggère le contrat du pacte pour la transition. Par contre, cet engagement-là, je vais le remplacer. Dans les prochaines semaines, je dédierai donc mes chroniques à l'environnement et à des communautés qui, comme au Paluk, se sentent trop souvent invisibles et pour qui les effets des changements climatiques sont une claque sur la gueule quotidienne. Comme Janice le dit, « Nous voulons être vus comme un peuple ayant un futur, pas comme une relique du passé. » Alors, Daniel, pour ne pas en finir avec les chansons de Noël...
Oui, pour ne pas en finir avec les chansons de Noël, je me sentais un peu coupant parce que moi-même, les chansons de Noël, là, ça fait un temps, mais j'aime pas nécessairement écouter ça à plein temps tout le mois de décembre complet. L'article a été écrit par Stéphane Laporte, mm-hmm. Vous connaissez tous très bien, et ça a paru dans la presse plus l'édition du 15 décembre 2018. Encore 15 jours et vous ne les entendrez plus.
Oui.
Elles laisseront la place aux rigodons et aux chansons de tous les jours. Mais... pendant les 15 prochains jours, vous allez beaucoup les entendre, sans arrêt. Certains adorent, d'autres détestent. Moi, j'aime. C'est Stéphane Laporte qui parle. C'est pas sa voix, mais c'est...
Merci.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Les chansons de Noël sont des coffres à souvenirs, des albums de famille, des machines à voyager dans le temps. Vous en entendez une et soudain, la neige qui tombe, c'est la neige de vos 8 ans. Mm-hmm. Peu importe ce qu'elle raconte, son message est le même. Toutes les chansons de Noël disent que vous êtes encore un enfant. Bien sûr, comme en toute chose, il y en a des moins réussis. C'est que chanter Noël est un art que tous les interprètes ne possèdent pas. Les plus grands ont compris. Quand Ginette Renaud, Frank Sinatra, Nicole Martin ou Nat King Cole chantent « Vive le vent »,« Jingle bells »,« Glory, glory, hallelujah » ou « The Christmas song », ils ne chantent pas une chanson de Noël. Ils chantent une chanson, point. Avec la même intensité qu'un peu plus haut, un peu plus loin. Chaque mot sonne vrai, ils y croient. Trop de chanteurs et de chanteuses interprètent les classiques du temps des fêtes en ayant l'air de dire « Regardez-moi, je suis en train de chanter une toune de Noël, ho ho ho, et que c'est rigolo, écoutez les grelots, on les croirait en plein party de Noël de bureau, ho ho ho. » Ils sont aussi artificiels que la neige dans leur décor, rien de senti. De l'émotion en boîte, comme les atokas. Ça ne nous touche pas. Tandis que lorsque Sinatra chante « Santa Claus is coming to town », on sent qu'il l'attend.
C'est vrai, ça.
Oui. Écoutez-le encore, et c'est absolument vrai. J'avais pas réalisé.
Non,
mais
c'est
pas une fausse nouvelle. Le Père Noël arrive vraiment et on y croit. Mm-hmm. Il en va des chansons de Noël comme des vins. Il y a de grands crus et il y a de la piquette. Il faut les choisir. C'est méchant un peu, mais il faut dire
mais
les vraies
choses. Mais c'est vrai de peu près tout dans la vie. Mm-hmm.
En plus des classiques cités dans le paragraphe précédent, laissez-moi vous en proposer quelques-unes. Bon, on en avait parlé beaucoup, mais on va en reparler tantôt avec Serge, mais bon, il y en a dans l'article, il faut le dire. Sainte Nuit, l'une des plus vieilles chansons de Noël, nous noue la gorge comme un foulard bien serré durant une tempête. Sainte Nuit, c'est une larme d'espoir, mais une larme quand même. La plus belle version est celle interprétée en duo par Johnny Reed et Isabelle Boulay. Jamais vu une chanson bilingue aussi réussie. Parce que c'est ça aussi, la magie des airs de Noël. Et ça, on pourrait en discuter longtemps, mais je fais deux catégories de chansons de Noël aussi. Mm-hmm. Il y a les chansons plus religieuses, et comme celle-là, et il y a les chansons plus Noël, il neige, bonhomme de neige, tout ça, le plus léger. Mais bon, celle-là, c'est vrai qu'elle a un impact assez important. Peu importe leur langue, on comprend tout ce qu'elles disent. Comme si elles n'étaient pas en français, en anglais ou en espagnol, mais qu'elles étaient en noélien. Un mot avec Noël, là. C'est pas moi qui prononce mal. Dans la langue de Noël, pas de barrière. Petit Papa Noël, Frosty the Snowman et Feliz Navidad, toutes dans la même catégorie. Et Peace on Earth, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans les années 80, la chanson qui avait été interprétée par Bing Crosby et David Bowie en duo. Peace on Earth, The Little Drummer Boy. Mm-hmm. Une rencontre improbable qui rassemble les générations. À l'époque, c'est comme si Gilles Vigneault chantait avec Hubert Lenoir.
Oh, quand même, oui, j'avoue que là, okay, ça me donne plus une idée, là, merci.
C'est un peu étiré comme comparaison, mais c'est vrai. Et les harmonies entre le patriarche Bing Crosby, bien entendu, et Ziggy Stardust sont si riches qu'elles donnent le goût de croire que le monde pourrait bien aller si nos différences se mariaient.
A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when living in peace, so peace on earth. When we come, every child must be made. Every child must be made to care enough for his fellow man, to give all the love that he can. I pray my wish will come true. It's for my child and your child too. He'll see the day of glory. I play my day for him when men of goodwill live in peace again. Then peace on earth. Can it be?
Quelle belle découverte, hein? David Bowie, Peace on Earth, avec Bing Crosby. Puis,
beau mix entre les deux chansons.
Little Drummer Boy. Ouais, au début, on reste surpris un petit peu, mais ça se marie très bien ensemble.
Un peu comme le Boléro de Ravel avec... mon Dieu, je me souviens pas.
Avec Parapapompom, là.
Ouais, effectivement, la même.
C'est ça. Mais oui, ça se marie très bien. Ah, un petit intermède, on sentait la neige qui tombait.
Ça, c'est des belles chansons de Noël que j'aime entendre quand même.
Merci beaucoup. Et parlant de classiques de Noël, vous avez la chanson incontournable pour Noël, le Noël québécois.
Avant que Jean-Sébastien nous la fasse entendre, je vais vous donner deux indices pour l'identifier. Son compositeur, Adolphe Adam, l'appelait la Marseillaise religieuse. Et Claude Debussy, le grand compositeur français, l'appelait ce chant d'ivrogne.
Bon, Adolphe, il est sûrement né avant 45.
Ce chant d'ivrogne.
Alors,
mais
Jean-Sébastien. C'est vrai que... Jean-Sébastien va peser sur le piton comme Manon, tout le monde en parle.
Prendre un verre de bière, mon ami.
La tâche originelle et de son père arrêtait le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance.
Ah oui, c'est vrai que ça me rappelle nombre de soirées arrosées où on revient en chantant le mini chrétien à tue-tête.
Minuit. Il y a des chansons de Noël de centre d'achat, puis il y a des chansons de Noël de messe de minuit. Ouais. C'est ça que je veux dire tantôt un peu.
Alors, aucun chant religieux n'a provoqué autant de débats dans l'histoire de l'Église catholique québécoise et autant de commentaires chez le commun des fidèles.
Parce que des débats? Ben, vous m'étonnez vraiment.
Oui.
J'ai hâte d'entendre ça.
Oui. Les paroissiens en parlent avant et après l'office religieux. Là, qui va chanter le minuit chrétien? Rappelez-vous, là, dans le temps d'une paix, il y avait eu toute une émission sur ça, le minuit chrétien, Joseph Arthur devait le chanter, il n'y avait pas de voix. Puis là, c'était qui va le chanter à la... Et finalement, c'est Rosanna qui l'avait chanté.
Oh, un scandale! Une femme qui chante le minuit chrétien.
Mais la première personne qui a chanté le minuit chrétien, c'est une femme, une chanteuse d'opéra.
Ah oui?
Ouais,
ah,
je vais vous en parler tout à l'heure. Ouais.
Rosanna au plus haut des
cieux. Oui. Alors, ben, c'est ça. Avant, à la messe, il se demande qui chantera, s'il le chantera aussi bien ou aussi mal que l'année précédente. Après, il commente la performance du soliste, de l'organiste, du chœur de chant. Car voyez-vous, le minuit chrétien est un moment magique dans toutes les églises de la francophonie. Et au Canada, il a été chanté pour la première fois le 25 décembre 1858 par la fille aînée du juge René-Édouard Caron, qui est devenu plus tard lieutenant-gouverneur, dans l'église de Sillery, après que l'organiste Ernest Gagnon l'eut entendu à Paris l'année précédente. Le même jour, à la messe du jour, le chant sera repris par Madeleine Bello dans l'église Saint-Jean-Baptiste à Québec, donc c'est deux femmes qui l'ont... Ce chant religieux, si aimé du peuple, est banni de nombreuses églises du Québec dans les années 1930 et 1940.
Mais voyons donc!
Oui, à la suite d'une campagne menée par le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, archevêque de Québec, qui emboîtait le pas à des autorités ecclésiastiques françaises. On a dit que le minuit chrétien est un chant absolument infâme, à son mieux une chanson païenne. Les plus raffinés parmi les musiciens d'église jugeaient la pièce théâtrale, de mauvais goût, vulgaire même. Ben, faut avouer que c'est assez pompier.
Voyons, j'ai jamais vu ça comme ça, c'est donc bien drôle.
Oui.
Peut-être que j'ai jamais écouté vraiment les paroles à part Minuit chrétien, là.
Ben, parce qu'on parle...
Puis le monde entier tressaille d'espérance, me semble que...
Peuple à genoux, c'est pas... Racheter le courroux de Dieu, parce que Dieu n'est pas supposé avoir de courroux. Dieu est un être bon, alors il y a tout ça qui est entré dans les...
Vous avez pas lu la Bible, hein, parce que...
Ben oui. Puis Dieu, c'est lui qui a fait le déluge, alors bon...
Il y a ses journées, il est toujours drôle.
Ainsi donc, on a arrêté de chanter Minuit chrétien. Pour nuire à la diffusion du minuit chrétien, on fait courir la rumeur que ce chant avait été composé pendant une beuverie et que l'auteur, un supposé franc-maçon alcoolique, avait recyclé la musique de l'un de ses opéras pour offrir la cantique à sa maîtresse. Et pourquoi le minuit chrétien a-t-il été soudainement ostracisé par les autorités ecclésiastiques? Pour en deviner les raisons, il faut remonter à l'origine du chant. C'est le 3 décembre 1847, dans la diligence de Paris, entre Mâcon et Dijon, Félix Capot, qui a vécu de 1807 à 1877, négociant en vin, et poète à 16 heures, écrit les paroles d'un Noël pour lesquelles il est fort loin de se douter un seul instant de l'immense succès qu'il obtiendra par la suite. Capot, alors âgé de 39 ans, est un ancien élève des Jésuites au Collège royal d'Avignon et, après des études de droit à Paris, était revenu s'installer dans son village natal afin de s'associer avec le maire dans un commerce de vin. La chanteuse Émilie Laurie adresse les strophes de Minuit chrétien au compositeur Adolphe Adam, qui est considéré comme l'un des créateurs de l'opéra comique français. Adam en fait la musique en quelques jours, et le 24 décembre 1847, à la messe de minuit, Émilie Laurie chante pour la première fois le Noël d'Adam, le titre sous lequel le chant a d'abord été connu, le Noël d'Adam.
Et le Noël chrétien, d'Adam, ouais. Ah bon?
Et immédiatement célèbre, notamment grâce au baryton Jean-Baptiste Faure, ce chant de Noël échappe à l'auteur des paroles, qui ne parvient même pas, même comme il le désira 20 ans plus tard, à changer le texte. Il a voulu changer le texte, mais c'était tellement ancré que les gens ne voulaient
pas. Les gens déjà connaissaient les paroles par cœur, donc c'était impossible.
Ils voulaient leur texte, oui. Philippe Capot n'était en effet pas du tout un homme d'Église, un fervent catholique, mais au contraire, un libre penseur, un voltairien. Au culte d'un Dieu, il préférait celui de l'humanité. Il dira « Nous avons cru devoir modifier ce qui nous avait échappé au premier moment sur le péché originel, auquel nous ne croyons pas. nous admettons Jésus comme rédempteur, mais rédempteur des inégalités, des injustices et de l'esclavage et des oppressions de toutes sortes. Alors imaginez tout ce qu'a amené comme débat dans ces années-là. Adolphe Adam appelait donc le menu chrétien la Marseillaise religieuse. Non seulement ce chant conquiert-il rapidement les églises de France, mais il est chanté dans les rues, dans les salons et même dans les cafés-concerts. Mais Adam a un péché originel, il est juif.
Oh, c'était ça son problème. C'est ça qu'on paye depuis ce temps.
Oui.
Là, vous parlez de pas Adam dans Adam et Ève. Là.
Ah, OK, OK.
Monsieur Adam, celui qui a fait la musique.
Oui, oui, le compositeur, l'auteur.
Oui. Or, il faut se souvenir que dans les années 1930, on trouvait encore dans les missels la prière pour l'infâme peuple juif.
Ah oui?
Ben oui, peuple qualifié de déicide parce qu'ils ont tué Jésus.
C'est incroyable. Juifs, hein.
Ajoutons à cela que le parolier était un vulgaire marchand de vin et qu'il niait le péché originel.
C'est quand même pas le peuple qui l'a tué, en tout cas, on embarque un peu là-dedans.
Non. Alors, le menu chrétien, ça a été chanté évidemment par Enrico Caruso, Tino Rossi, Georges Thill, Pavarotti, Raoul Jobin, Richard Verrault, Nana Mouskouri, René Simard et tous les autres que vous dont vous avez parlé tout à l'heure.
Tous ceux de la colonie artistique.
Oui, c'est ça. Alors voilà.
Alors, c'est donc cette deuxième partie de l'article de Maïté Labrecque-Saganache, de la chronique, en fait, de Mme Labrecque-Saganache que je vais vous présenter maintenant. Alors, quand je suis allée à Opaluk, notre avion s'est posé sur une piste d'atterrissage en gravier. Celle-ci était collée sur la communauté. Un problème, d'après les élus, puisque le vent souffle généralement la poussière en direction de la cour d'école. Le Nunavik est impressionnant. Ces énormes marées, ces paysages sans arbres qui contrastent avec la dense forêt de mon chez-moi. Nos territoires sont l'un à côté de l'autre et nous sommes sous le même traité moderne. Pourtant, nous sommes loin de nous connaître. Dans les années 1940 et 1950, on a découvert que le sol autour d'Opaluk était ferreux, d'où le nom de la communauté qui signifie « là où la terre est rouge ». Alors, je vous avais dit que je vous dirais comment ça se disait en Inuktitut, alors c'est Opaluk. C'était bien avant de signer la Convention de la baie de James et du Nord québécois. Quand est venu le temps de négocier les catégories de terres, catégories 1, 2 et 3, le gouvernement convoitait déjà le minerai autour de la communauté, ce qui l'a désavantagé la communauté dans les négociations. Opaluk n'a pas eu le choix d'accepter, car si plus de 3 communautés refusaient de signer, tout le processus au Nunavik tombait à l'eau. Je les disais tout tellement bien quand j'étais toute seule dans mon salon.
Oui, on devrait
pourtant,
pas être
c'est des noms qu'on entend très souvent. Alors, Pauvirnitouk, Ivo-Jivik et la moitié de Saluit s'étant déjà retirés, les représentants d'Opaluk ont accepté pour le bien de la région du Nunavik. Donc, ont accepté de signer, malgré leur réticence. À la suite de leur décision, la communauté a dû être relocalisée de l'autre côté de la baie. Je ne sais pas si on peut s'imaginer qu'on doit déménager tout notre village au complet, perdre tous nos repères. De l'autre côté de la baie, ce que les habitants ont fait sans assistance du gouvernement et avec l'aide seulement de quelques personnes des communautés à proximité qui possédaient des bateaux assez gros pour transporter les matériaux. Le consentement préalable, libre et éclairé, dont on parle tellement ces temps-ci, n'a jamais vraiment été un droit dont Opaluk a pu bénéficier. C'est Mme Janice Gray, la vice-mairesse d'Opaluk, qui dit ça. Quand Oceanic Iron Ore faisait ses consultations pour la mine prévue à 10 km de la communauté et le port prévu dans les opérations, ces démarches étaient peu reluisantes. Il y avait souvent un manque de traduction, les consultations étaient toujours sur la mine et jamais sur le port, qui devait être juste de l'autre côté de la baie où se trouve le village. Opalumiut dépend trop de la biodiversité du plan d'eau pour accepter un tel projet. Rappelons aussi que manger des produits locaux, comme le phoque, l'omble chevalier et la baleine, est plus écologique que de faire venir toute la nourriture par avion, puisqu'il n'y a pas de route pour se rendre dans aucune communauté du Nunavik. Donc, c'est important que les gens puissent continuer à se nourrir de la nourriture locale. On ne veut pas tuer les animaux qui nous nourrissent. Oceanic Iron Ore aurait apparemment fait faillite, et ses employés ont laissé leur tente, leur véhicule, leur gaz et autres équipements sur un lot de la communauté qu'ils ne payent pas. Mais comme le rappelle Janice, l'industrie minière rôde toujours autour, comme le boogeyman. Janice et moi sommes d'accord sur le fait que les gouvernements doivent redoubler d'efforts dans la lutte contre les changements climatiques et que les initiatives personnelles ont moins d'impact que celles des États. Les engagements personnels listés dans le pacte ne lui ont pas tellement parlé, mais elle reconnaît s'entendre sur le fond. J'ai un profond respect pour Janice et les luttes quotidiennes qu'elle mène pour Opaluk. J'ai un profond respect pour son mode de vie. Pour ces gens, le combat est réel, épuisant et terrifiant. Il mérite d'être écouté. Daniel.
On parle beaucoup de chansons de Noël, on parle de musique, on parle de toutes sortes de choses, mais j'aille pas ça des fois parler d'argent de tous ces artistes-là qui nous émeuvent.
N'en font-ils pas?
Ouais, Katy Perry était la mieux payée en 2018. C'est pas une très grande surprise, mais attendez de voir un peu. Dans le milieu de la musique, Katy Perry est l'artiste la mieux payée en 2018 chez les femmes, selon Forbes, parce qu'il faut...
Oui, les hommes, ils sont encore, j'imagine.
Ouais, okay. J'imagine les gars, ils ont peut-être un petit peu plus. Elle aurait fait, tenez-vous bien, 83 millions de dollars US, entre autres grâce à sa tournée Witness the Tour, qui rapportait environ 1 million de dollars US par représentation.
Ah oui, ça c'est le profit net ou c'est les revenus?
C'est pas clair quand on dit qu'il rapportait environ, ouais, par, je ne sais pas si c'est net ou pas, mais en tout cas, quand on trouve que les prix des billets sont élevés, ben, regarde, ça rapporte ben oui. Ça. Là. C'est pas pour rien. Et sa rivale, Taylor Swift, arrive au deuxième rang avec 80 millions, c'est quand même pas très loin, là, empoché entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018. Et notre Céline, d'après vous, notre Céline
ouais,
Dion,
elle est où,
qui est quand même... Céline Dion occupe la 9e place de ce palmarès avec 31 millions de dollars US.
Mais quand même, c'est pas si mal.
Voilà. Alors,
mais merci beaucoup, Daniel.
Quand on est pour un petit pain.
Ouais, c'est ça. C'est nous, le petit pain. Mais merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On vous revient après une courte pause avec d'autres sujets. Ça va tourner encore autour de la musique de Noël. Bonjour et bienvenue à la deuxième partie des voix de service. Comme je le disais en première partie, on va continuer de parler de chansons de Noël. Daniel, vous allez
continuer l'article pour ne pas en finir avec les chansons de Noël, l'article de Stéphane Laporte.
Et de votre côté, Serge, vous avez commencé quelque chose la semaine dernière,
oui.
C'est ça que vous allez poursuivre cette semaine?
Oui, les 25 meilleures chansons de Noël des 25 dernières années.
Excellent.
C'était pas les 25 meilleures années, peut-être.
Mais... Non!
Bon, on va prendre ce qu'on a.
Oui.
Et de mon côté, bien, je vais vous parler d'albums à colorier pour la réconciliation.
Okay.
Voilà. Alors, aucun lien avec Noël.
Parfait.
On commence tout de suite avec vous, Daniel, pour la suite de cet article de Stéphane Laporte.
Oui, bien là, il y a peut-être des informations qui vont se recouper avec ce que Serge a dit tantôt, là, mais bon. Les chants de Noël remontent à la nuit des temps ou presque. On en retrouve qui datent du 16e siècle.
Mm-hmm.
La période faste fut autour des années 1940. On s'entend que les classiques de chants de Noël commerciaux qu'on connaît viennent de cette époque-là. C'est là que les grands standards furent écrits. Ceux qui ont réussi, après cet âge d'or, à ajouter leur lumière au grand sapin ont beaucoup de talent. Pas facile de rivaliser avec White Christmas. Au Québec, quelques créateurs ont réussi le coup. Marie-Noël, de Claude Gauthier et Robert Charlebois, est un petit bijou.
Ah oui, c'est tellement beau.
Oui, c'est vrai, mais encore là, on dirait que quand on écoute ça, c'est une belle chanson nostalgique. Mais on n'a pas le même feeling de chanson de Noël. Il manque les grelots, je ne sais pas.
Ouais, peut-être.
Mais c'est une belle chanson de Noël, je l'admets. C'est un hymne à la nostalgie, justement. Qui veut être nostalgique? Aux amours d'enfance, elle fait tourner des films en Super 8 dans notre tête. Impossible de se lasser de 23 décembre, de Beau Dommage, écrite par Pierre Huet et Michel Rivard. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est dans l'article.
C'est Daniel qui parle et non pas... Oui.
Non, celle-là, on est très bonne, puis on l'a beaucoup aimée.
Mais c'est pas une chanson de Noël.
Non, moi, je suis un peu tanné. C'est la chanson de tous les ticus. Quand je l'entends, la cloche de mon école résonne. Toute l'excitation du dernier jour de classe avant le congé de Noël revit en moi. C'est fou jusqu'où on peut se rendre en 2 minutes 18 secondes, à des années-lumière de maintenant. Il y a aussi dans la liste des nouveaux classiques d'ici, « Entre Noël et le jour de l'an » de Maryse Letarte.
Maryse Letarte, son album de Noël, c'est vraiment...
C'est vraiment différent.
Sérieusement,
c'est ça que
oui.
je l'ai.
Mais on a l'ambiance de Noël. Elle a eu ça, puis elle a les cloches, comme vous dites, les grelots. Ouais. Puis, mais en même temps, c'est actuel.
C'est rafraîchissant, c'est actuel. C'est très différent. Oui, effectivement, ça, je l'apprécie beaucoup. On est une semaine plus tard qu'avec Beau Dommage, avec le Entre Noël et le jour de l'an. Ça raconte le 30 décembre et ces journées qui ne sont ni lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, mais uniquement des journées entre Noël et le jour de l'an. Ça, je trouvais ça beau, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, oui.
Et où l'on navigue aux instruments.
Il y a une ambiance qui existe juste dans cette période de l'année.
On navigue aux instruments sans nos repères entre deux gros parties. Dès que je joue entre Noël et le jour de l'an, on joue nous aussi dans le salon en pyjama à 3 heures de l'après-midi. Ça, c'est de la belle nostalgie. Ça, je trouve ça correct. Parmi les chansons plus récentes, mais qui commencent à avoir un peu de barbe blanche, il faut mentionner aussi Joli Sapin de Michel Fugain, Last Christmas de George Michael, Joyeux Noël et Bonne Année de Villeray, Mais Noël d'avant d'Andréane A. Mallette, Des vents frais qui soufflent les classiques de Noël, Mention pour le Noël au camp de Tex Lecor. C'est du Fred Pellerin avec un petit verre dans le nez. Est-ce que, Serge,
du Fred Pellerin avec un petit verre dans le nez?
De ça, Noël au camp de Tex Lecor, ça date des années 60.
Vaguement.
C'était plus parler que chanter. C'était assez émouvant, je dirais. Bien sûr, il y a aussi It's beginning to look a lot like. Mm-hmm. C'est le fun de dire ça. It's beginning to look. Faut qu'on la chante, hein, pour la dire.
Oui.
It's beginning to look a lot like Christmas. Bon. Voilà. Et j'ai vu maman embrasser le Père Noël.
Ah ouais.
Let it snow. Le petit renne au nez rouge. Rudolph en anglais. All I want for Christmas is you. Et tellement d'autres. Et si vous êtes tanné d'entendre chanter, vous pouvez mettre le magnifique album instrumental d'André Gagnon. Vous allez entendre la bûche crépiter, même si vous n'avez plus le droit de faire des feux de foyer.
Ouais.
Mais sur Vidéotron, vous avez un poste où il y a des feux de foyer, ça accompagne très bien. Oui, je sais, je ne vous ai pas parlé de Baby It's Cold Outside. Vous êtes au courant un petit peu de la controverse.
La petite polémique. Ouais, moi, j'aime beaucoup la version québécoise. Baby, il fait frais dehors.
Ouais.
J'aime vraiment ça.
Alors, désolé, je pense qu'on ne l'entendra plus encore très longtemps. Et pas à cause de ce que vous croyez, mais parce qu'avec le réchauffement de la planète, elle risque d'être bientôt dépassée. En terminant, laissez-moi remettre le flocon d'or de la plus belle chanson de Noël à John Lennon et Yoko Ono pour Happy Christmas, War is Over. Ça prenait un Beatle et son épouse pour mettre dans une ritournelle autant d'espoir et de désespoir. La guerre est finie si on le veut. C'est ce qu'elle dit. Pourquoi on ne le veut pas? C'est ce qu'elle n'a pas besoin de dire. J'espère que je vous ai donné le goût d'en écouter au moins une. Si vous la partagez avec quelqu'un qui vous aime, ce sera votre plus belle. Thank you.
Alors, on poursuit, en fait, on poursuit ce que vous avez entamé la semaine dernière avec les 25 meilleures chansons de Noël des 25 dernières années. Mm-hmm.
Oui, c'est un article de Marc-André Lemieux dans le Journal de Montréal. Il fait sa sélection avec l'aide de plusieurs experts, soit Mike Gauthier, Étienne Grégoire, directeur musical de Rythme FM, Danny Jobin, programmeur musical à Musique Plus Musimax, et Monique Giroux de Ici Musique. Là, je suis déçu dans le choix. Il n'y a pas de... Michel Richard n'est pas là.
Michel Richard.
Oui, elle a déjà fait,
elle a
de
fait des chansons de Noël dans les 25 dernières années? Oui.
Sûrement. Elle doit en avoir fait même plusieurs, j'imagine.
Je ne sais pas, peut-être
avant
25.
Peut-être pas d'avant
25,
ça, hein? J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça, mais ça, c'est moi.
Alors, pardonnez-moi. La semaine dernière, on était arrêté au numéro 17. Alors, la turlute des Little Delisle de Monique Jutras, 1997. Inspirée des traditions de turlute québécoise, cette étourdissante chanson raconte une fascinante histoire, celle du couple Eddie Delisle et Dalida Little. C'est hallucinant, surtout quand on porte attention aux paroles, lance Monique Giroux. Ensuite, numéro 18, One More Sleep de Leona Lewis de 2013. Autrefois pressentie comme la digne successeur de Céline Dion et Mariah Carey, Leona Lewis est rapidement retombée dans l'oubli après le succès de Bleeding Love. La chanteuse britannique a néanmoins refait surface en 2013 avec un disque de Noël incluant One More Sleep, une pièce aux accents Motown, plus sucrée qu'une canne de bonbons. C'est bien dit, hein? 19, Hands de Jewel en 1999.
Ça me dit rien.
Ouais,
j'ai... Vous êtes vraiment en train de me rendre moins niaiseuse parce que c'est des chansons que je connais pas.
Ben moi non plus. Hein? Originalement paru en 1998 sur Spirit, cette touchante ballade écrite avec Patrick Léonard a refait surface une année plus tard en version remixée. Excusez-moi le bruit de page. Son de cloche et violon au menu sur Joy, A Holiday Collection, un bijou de Jewel. En 20e position, Hey Guys, It's Christmas Time de Sufjan Stevens aime beaucoup le temps des fêtes. La preuve, depuis ses débuts en 1999, cet auteur-compositeur-interprète originaire de Détroit a lancé une dizaine d'albums de Noël. Hey Guys, It's Christmas Time est considéré comme sa meilleure composition. Alors, je pense qu'il serait temps que Jean-Sébastien nous fasse jouer quelque chose.
Et on va y aller avec la dernière pièce mentionnée, celle de Sufjan Stevens, Hey Guys, It's Christmas Time. Et comme ça le dit dans le petit article, il a fait plus d'une quarantaine de chansons de Noël. Ça va vraiment des versions originales, des compositions et des reprises de grands classiques. Celle-ci, c'est une composition. Il va autant dans la musique mollo, disons, mm-hmm. que la musique plus festive. Celle-ci, c'est dans son registre un petit peu plus festive. Alors, on écoute.
Christmas time.
Christmas time. He might let us stay up all night because it's Christmas time. I might wish you all the best because it's Christmas time. I might kiss you on the back of your neck because it's Christmas time. I think about how we could run away now that it's Christmas time. We travel in a one-horse open sleigh now that it's Christmas time.
C'était, j'avais jamais entendu cette chanson-là, mais c'est vraiment une belle chanson, effectivement. Ça fait sa place dans le palmarès.
On est loin du menu chrétien.
On est quand même assez loin, effectivement.
Ah, la nostalgie, Serge.
Alors moi, je vais vous amener encore une fois ailleurs. Et c'est toute une coïncidence, mais c'est aussi un article qui a été publié le 14 décembre. Donc, c'est sur le site de Radio-Canada, ici, Alberta. Des livres à colorier autochtones pour la réconciliation. C'est l'artiste métisse algonquine Diana Frost qui a fondé Coloring It Forward, qu'on pourrait traduire par « colorier au suivant ». Une série de livres à colorier dans le but de promouvoir l'art et la sagesse des différentes Premières Nations du Canada et ainsi faciliter la réconciliation. C'est un texte de Licia Baldini. L'idée de l'œuvre est apparue à Diana Frost en rêve. Un signe important et très spécial qui, selon les traditions autochtones, représente un message des ancêtres ou un message du Créateur montrant le prochain chemin à prendre. Son rêve était très clair et lui a indiqué sa mission. Elle devait faire une série de livres à colorier, chacun devant représenter une Première Nation différente. Pour chaque livre, elle devait travailler avec un aîné qui écrirait les histoires pour transmettre des enseignements. Par la suite, les histoires seraient jumelées au dessin de deux artistes de la même Première Nation. Je cherchais depuis longtemps à trouver une façon d'aider la communauté autochtone. Je ne savais pas comment et je n'avais pas les outils nécessaires. Je voulais aussi en apprendre plus sur mes racines. Et le rêve m'est apparu. Pour Diana Frost, il était primordial de trouver des aînés qui aient envie de transmettre leur sagesse et leurs enseignements non seulement avec leur propre nation, mais aussi avec le reste du monde. On veut trouver des aînés qui sont positifs, dans le sens qu'ils ont réussi à aller au-delà de ce qui leur est arrivé de négatif. Par exemple, dans les pensionnats autochtones ou le 60s Scoop. Ça, c'est la rafle des années 60 qu'on appelle en français quand il y a beaucoup d'enfants autochtones qui ont été carrément arrachés à leur famille. Il y en a qui ont été vendus aux États-Unis et à d'autres endroits dans le monde, en tout cas. Donc, ça fait référence à cet événement-là. Les artistes et les aînés avec lesquels j'ai travaillé sont très heureux de pouvoir aider les gens à en apprendre plus sur l'art et les enseignements autochtones. Et pour ce qui est de la communauté canadienne plus étendue, je pense que c'est une façon d'apprendre des choses de façon positive et amusante sur les différentes nations. Diana Frost a voulu tout d'abord collaborer avec des artistes qui avaient déjà plusieurs œuvres à leur actif. Dans le cadre du premier livre, elle a rencontré l'artiste et conteur Ryan Jason Allen Willard, qui habite à Red Deer. La moitié de ses œuvres étaient déjà en noir et blanc. Bien qu'il ait été élevé dans un milieu non autochtone, il a renoué avec ses racines pieds-noirs de la première nation Siksika. Comme il fallait trouver un deuxième artiste, Ryan a présenté Kalum Tekedan, un artiste pied-noir de Calgary, ainsi qu'un aîné, à Diana Frost. Le travail collectif pouvait commencer. Trois autres livres ont été produits et représentés les Dénés du Nord, la nation des territoires du Nord-Ouest, les Cris et les Ojibwe. Le quatrième livre, paru la semaine dernière, est particulier pour Diana Frost. Elle a été contactée par l'artiste Onagotei, qui est aussi un aîné. Il vient d'Ontario, près de Kingston, et travaille pour l'organisme Kingston Language Institute, qui revitalise, entre autres, les langues autochtones. Il avait vu mon premier livre et trouvait que c'était très positif, que ça aidait les gens à guérir, que ce soit des effets liés aux pensionnats autochtones ou à d'autres blessures. Il voulait pouvoir y participer et aussi pouvoir changer les choses. Au-delà des livres à colorier, Diana Frost a mis en place, l'année dernière, des calendriers rassemblant les œuvres de 14 artistes de partout au Canada tous de Premières Nations différentes. On peut y retrouver les anniversaires de héros autochtones. Je suis allée voir si on va sur Coloring It Forward. Je vais vous dire ça. C'est Color It Forward. Vous cherchez Color It Forward, puis vous allez retomber là-dessus. Ça va être trop long, vous donner l'adresse. Mais bref, j'ai pas trouvé de calendrier en français. C'est en anglais, mais les dessins sont absolument fabuleux. Là. C'est vraiment, c'est coloré, c'est plein de c'est vibrant de couleurs. Diana Frost nous dit « J'aimerais encourager les gens à montrer leur solidarité envers la réconciliation cette année. Et en achetant de l'art, je pense que c'est une façon positive de le faire. » Alors, voilà, c'était donc cet article. On mentionne là, que pour plus d'informations, on peut consulter le site qui figure au bas de l'article, mais il n'y a pas de site qui figure au bas de l'article. Alors,
ça doit être le truc, point, on ne sait pas quoi.
Ben, c'est moi qui suis allée le chercher moi-même. Là, j'ai fait une recherche dans Google, mais non, c'est ça. Donc, si vous cherchez Diana Frost, vous allez arriver facilement. Là, Diana Frost ou Color It Forward. Vous pouvez acheter en ligne tous les, donc, les livres à colorier et le calendrier qui est en anglais. Et je pense que on voit juste une page de moi en exemple, le mois de mai, mais c'est écrit en anglais et c'est écrit aussi dans la langue probablement de la Première Nation qui est illustrée pour ce mois-là. Donc, c'est bilingue, mais pas de français. Merci.
Non, c'est parce que je viens de trouver dans le choix de chanson, la 24, Noël tout blanc, Québecissime, qui disent ça nous permettrait peut-être de finir.
Mon cher Serge. Et mais c'est correct, ça nous intéresse beaucoup. Donc, vous allez terminer l'émission avec ces chansons de Noël.
Oui, on continue?
Alors, on va juste écouter un petit peu de musique pour se nettoyer la tête. Oui, et puis, on revient avec les chansons de Noël. C'est ça. Donc, pour terminer, en fait, comme dernier article de l'émission, vous allez continuer avec ce palmarès, les dernières chansons sur le palmarès des 25 meilleures chansons de Noël des 25 dernières années.
En position 21, Christmas All Over Again, Tom Petty and the Heartbreakers, 1992. Entendue dans Home Alone 2, cette chanson rock rétro à saveur 60s peut aussi être appréciée dans Jingle All the Way, la course aux jouets, avec Arnold Schwarzenegger. J'imagine que c'est un film, là.
Oui, ça me dit vaguement quelque chose.
C'est pas Arnold Schwarzenegger. Non, je vais vous rassurer.
Et Four Christmases, Quatre Noël, avec Vince Vaughn et Reese Witherspoon. Witherspoon. Mon anglais est très bon. 22, Text Me Merry Christmas, c'est cute celle-là. Straight No Chaser avec Kristen Bell en 2014. Qualifiée de rigolote et accrocheuse par Billboard, cette chanson a cappella du groupe Straight No Chaser semble être tout droit sortie d'une comédie musicale. Avec un propos moderne et relations amoureuses au temps du numérique, Text Me Merry Christmas parle avec humour des avantages du texto. Et quelqu'un vous texte « I don't care if you spell things right, I just wanna hear you from you tonight ». Kristen Bell qui dit « Je me fous de tes compétences en grammaire, je veux juste avoir de tes nouvelles. » Cute.
Oui, c'est mignon.
« Where Are You Christmas » de Faith Hill en 2000. « parfaitement pétadarante, cette ballade en puissance de Faith Hill est malheureusement extraite d'un bien mauvais film mettant en vedette Jim Carrey. How the Grinch Stole Christmas, détail intéressant, elle a été écrite par James Horner et Will Jennings, le tandem derrière My Heart Will Go On de Céline Dion.
Ah, quand même.
Oui. Noël Blanc de Québecissime 2014. Suggestion de Musique Plus Musimax, cet extrait du spectacle Décembre de Québecissime est fait sur mesure pour être chanté en chœur autour d'un feu de camp, ou plutôt d'un feu de foyer. Un air du temps des fêtes à saveur traditionnelle. Blame It on the Snow en dernière position, numéro 25. Tiffany Houghton 2014. La pop insouciante et dansante de Tiffany Houghton, une auteure-compositrice originaire de Dallas, sied parfaitement au temps des fêtes. « Blame it on the snow » reflète le son de Noël des jeunes chanteuses, déclare Mike Gauthier. Et qu'entendrons-nous?
Alors, on va écouter « Text me, it's Christmas » de Straight No Chaser et on vous rappelle de ne pas texter au volant.
This holiday, you'll be far away and I'll be all alone. So please remember this December to fully charge your phone and text me Merry Christmas, let me know you care. Just a word or two of text from you will remind me you're still there. You don't have to add much to it, one smiley face will do. Baby, text me Merry Christmas, 'cause I'm missing kids.
Holiday complete. Though you're far from me, say you'll be BRB. That's a text I'll never delete. No. Choose just the right emoji. One that makes me LOL. LOL. And if you text me something naughty, I promise I won't tell.
I don't care if you spell things right, I just want to hear from you tonight.
Stroke those keys with delicate touch and type those little words that mean so much.
Hi.
Hey.
How are you?
Okay.
Miss you.
Miss you too.
Xmas sucks without you.
I know. LOL.
Love you.
Love you.
Okay, thanks. Bye.
A Facebook message isn't quite as sweet.
I need more from at you than just a tweet.
A snap on Snapchat doesn't last. And voicemail, that's from Christmas past. Text me Merry Christmas. Send a selfie too. If you do, I'll go neath the mistletoe and pretend my screen is new. Show me that you love me. Text, text, hold a kiss and hug me. I'll be right here waiting for my pants to start vibrating. Baby, text me Merry Christmas and I will text you too. This Christmas, it's the least that we can do.
Alors, wow, je ne connaissais pas, mais je viens de l'ajouter dans ma liste de chansons de Noël. Merci beaucoup. Et si jamais on veut reviser cette liste et qu'on n'a pas pris en note à chaque fois les chansons dont vous nous parliez, est-ce qu'il y a moyen de trouver ce palmarès de 25 chansons en ligne?
Moi, je l'ai trouvé en tapant. Je faisais une recherche pour les chansons de Noël et j'ai tapé « Meilleures chansons de Noël » et je suis tombé sur ça. Et c'est vraiment…
Le titre c'est vraiment…
« Les 25 meilleures chansons de Noël des 25 dernières années. » 25-25.
Parfait.
Et vous pouvez écouter, on pouvait entendre les chansons de chacune.
Parfait,
des
merci.
Sélections.
Merci beaucoup, Serge. Et je voudrais profiter de cette tribune et de cette dernière émission avant de partir pour féliciter notre collègue Daniel Lachance, qui est le récipiendaire de cette année du prix Raymond Charrette remis aux bénévoles émérites de l'année dans la catégorie radio. Alors, moi, je pense que c'est vraiment mérité. On a entendu
beaucoup
votre charmante voix cette année.
Merci beaucoup.
Et vous méritez beaucoup. Félicitations,
bravo,
Daniel.
Merci beaucoup. Et je dois souligner que c'est Jean-Sébastien Laliberté qui a écrit le texte et qui a lu le texte pour présenter le prix. Il m'a tellement ému que j'ai eu de la misère à aller parler en avant.
Vous avez fait pleurer un petit peu.
Non, parce que
il y avait des larmes qui voulaient sortir. Là.
Non, c'est un très beau texte, Jean-Sébastien. En principe, c'était pas seulement du flattage. Tout était là. ça m'a fait réaliser moi-même.
Bon, alors, c'est ça, félicitations. Et puis, je pense que on va passer un beau temps des fêtes. Allez-y avec une petite pensée pour nous dire...
Pour les dirigeants, vous savez, oui. Jean Giraudoux a écrit « Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes du haut d'une terrasse.
Oh! »
Oui, effectivement.
Bonne celle-là.
Oui, j'avoue que... Bon, ben des fois, peut-être que Macron, dernièrement, trouve que la terrasse n'est pas assez haute.
Mais c'est à lui que je pensais, c'est ça.
Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous en 2018. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes, toute l'équipe. Et puis, en mon nom personnel, Isabelle Falardeau, Daniel Lachance, Serge Bradet. Merci beaucoup à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde. On vous dit à l'année prochaine.
Bye bye.
Bye bye, à l'année prochaine.